souffrance, stress permanent, charge mentale. Aujourd'hui, 4 jeunes sur 10 ayant entre 18 et 24 ans sont en dépression selon la dernière étude menée par France Inter. La souffrance psychologique a été l'un des effets secondaires de la crise sanitaire. S'il a longtemps été un sujet tabou, depuis la pandémie, la parole autour du mal-être s'est libérée. Plusieurs moyens sont mis en place pour leur venir en aide, et notamment des lignes d'écoute, comme celle de l'association Nightline pour les étudiants. Au micro, Lucas Legrand, délégué territorial de l'antenne Lille Nord-Pas-de-Calais. Bonjour Lucas, avant de parler des missions de l'association et pour mieux les comprendre, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Nightline ?
Nightline, déjà un nom à consonance anglaise, donc ça fait aussi appel à une histoire qui est un peu plus grande que la nôtre. En fait, les Nightline ont été créés dans les années 60 en Angleterre, et c'est le fruit de questionnements sur comment est-ce qu'un étudiant peut parler de sa détresse psychologique à des professionnels de soins, à son entourage. Et plusieurs personnes en Angleterre dans les années 60 du coup se sont fédérées en se disant il y a les professionnels de soins, mais aussi il y a des personnes qui peuvent être là, des pères qui peuvent s'engager pour pouvoir faire en sorte de vider son sac, d'être là pour être une main tendue. Et c'est créé ce système de ligne d'écoute tard le soir, tenu par des étudiants dans une question de santé communautaire. Ce modèle-là, il s'est diffusé dans toute l'Angleterre, dans tout le Royaume-Uni, un peu partout dans le monde, jusqu'à arriver en France en 2016. Et c'est un étudiant étranger qui venait de Dublin qui a importé le modèle en France, qui a plu du coup aux étudiants, qui a plu du coup aux acteurs de santé. Et depuis 2016, l'antenne parisienne qui a été la première a fait un peu des bébés partout finalement du coup en France, jusqu'à qu'en 2020, pendant le second confinement à Lille.
Et alors, l'association, elle fonctionne comment ?
Principalement grâce à la force des bénévoles, il faut le dire. On est quand même dans un système de prévention de santé communautaire, et du coup, notre motto, c'est par et pour les jeunes et les étudiants, avec des professionnels. Donc, on a environ 300 bénévoles qui agissent quotidien en France, du coup, pour tenir le service d'écoute, mais qui sont accompagnés par des professionnels avec plusieurs compétences, que ce soit, comme moi, sur la gestion de projet, du développement, que ce soit des psychologues qui sont beaucoup plus focus sur l'aspect clinique, l'aspect du coup d'accompagnement autour de la santé mentale et des projets de prévention, et d'autres métiers qu'on voit moins, comme la communication, l'administratif, la comptabilité, et toutes ces belles choses qui font qu'une association vit.
Et est-ce que les bénévoles suivent une formation pour ensuite, après, aider au mieux les jeunes ?
Oui, ouais, et c'est très cadré. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, la procédure, le protocole est animé par des bénévoles qui, du coup, se transmettent des informations, qui partagent leurs expériences en tant qu'écoutants. Et donc, pour venir bénévole, tout le monde passe par un questionnaire qui permet de voir un peu quels sont les jours les plus favorables à exercer un bénévolat, un peu quelles conditions, quelles sont les motivations. On a ensuite un entretien aussi pour présenter un peu mieux l'association, pour présenter des appels qui peuvent être compliqués et échanger un peu sur comment est-ce que la personne pourrait vivre des appels, comment pourrait vivre des situations compliquées. Et ensuite, il y a deux week-ends de formation avec deux formateurs qui viennent un peu partout en France. Et à la fin de cette formation, il y a un test qu'on appelle le screening qui met en marge des appels un peu fictifs. Et à la fin de ces appels, les formateurs donnent un avis qui est positif ou défavorable pour l'entrée dans l'association. Mais c'est très important pour nous aussi, pour la personne, pour qu'on soit sûr qu'elle soit protégée face à des situations qui sont compliquées, et aussi les appelants, qu'on soit sûr qu'il y ait une qualité d'écoute qui leur permet de pouvoir extérioriser, s'exprimer en toute liberté.
Comment ça se passe le bénévolat chez Nightline ? Est-ce que les bénévoles ont d'autres missions que les écoutes ?
Alors l'idée, c'est que la porte un peu d'entrée, ça soit le service d'écoute. Mais petit à petit, avec la fraise de la santé mentale, on va pouvoir aussi accueillir des personnes qui ne se sentent pas forcément d'être écoutants. Et qui est un outil d'animation sur 3 heures, animé par 2 personnes, qui permet de pouvoir déstigmatiser la santé mentale, faire une première approche avec un public qui connaît peu ou pas les questions de santé mentale. Et donc ça, c'est du coup un tout nouveau projet qui arrive cette année et sur lequel on va pas mal miser. Mais l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir faire au moins 2 à 3 permanences par mois, du coup, qui sont toutes échelonnées d'une semaine, du coup, pour pas rentrer trop tard plusieurs fois par semaine. Et ce qui est intéressant à Nightline, c'est qu'on prend soin des bénévoles dans le sens où il y a un accompagnement par des professionnels de santé qui est proposé, des réunions de partage chaque mois. Et aussi, on alloue un budget sur des activités, du coup, pour que ce ne soit pas seulement le service d'écoute qui fédère des gens. Et on a des bénévoles qui, du coup, organisent des soirées, des sorties culturelles, sportives, enfin, tout ce qui pourrait plaire aux bénévoles. Et chaque année, on a une rencontre régionale qui nous permet de pouvoir aller dans une maison de campagne, du coup, un week-end, et partager sur les actualités de l'antenne, de Nightline, mais aussi pour créer un moment de cohésion et faire la fête. Et ce même événement, il se produit une fois par année au niveau national pour que tous les bénévoles du coup de Nightline puissent se voir, s'apprendre à se connaître et partager leur réalité, qu'on soit à Toulouse ou à Lyon ou à Lille.
Et j'ai vu que l'association, elle était aussi entourée d'un conseil scientifique au-delà des psychologues et des bénévoles.
Oui, alors ce conseil scientifique, il a été créé en 2023. Il référence pas mal de personnes qui ont des casquettes différentes, mais des responsabilités qui sont particulièrement intéressantes. Si je peux en citer que un qui vient de notre région, c'est Charles-Édouard Notre-Dame, qui a énormément porté sur la question de la santé des adolescents. Et il fait partie de, du 31-14 et de Papa Guéno, qui sont deux structures sur la question du suicide qui sont très intéressantes. Et ce conseil scientifique qui nous permet de pouvoir améliorer du coup nos protocoles, pouvoir questionner des projets sur lesquels on est actuellement. Et du coup, ils se réunissent trois fois par an. Et voilà, c'est super intéressant pour l'association.
Et alors, pourquoi autour de la santé mentale chez les jeunes? Pourquoi les jeunes en particulier?
Multifactoriel, nous ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même des chiffres, et notamment sur la question des étudiants. Là dernièrement, l'Observatoire de la vie étudiante a sorti un chiffre en disant qu'environ 36% des étudiants en France sont susceptibles d'avoir des périodes de détresse mentale, donc c'est élevé. Ça fait aussi miroir à d'autres chiffres, notamment sur les pensées suicidaires, et plus spécifiquement sur les étudiants. Donc on reconnaît les jeunes en tant qu'une population particulière en France qui peut être susceptible d'avoir des périodes de détresse mentale qui sont plus fortes que d'autres populations. Et dans cette sous-catégorie qui est déjà la jeunesse, on voit que les étudiants sont encore plus susceptibles d'avoir des périodes compliquées. Donc c'est ça qui nous dit qu'il faut agir.
Quels sont les facteurs de cette détresse mentale chez les jeunes?
C'est très compliqué de le dire. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que sur du coup l'avis des étudiants, il y a plusieurs moments qui rythment ce passage vers l'âge adulte. Le fait d'être déraciné de son environnement pour aller vers un autre, de plus avoir les mêmes amis, de faire des rencontres amicales, des rencontres amoureuses, de se séparer de ses rencontres amoureuses, d'avoir le stress des études, de pouvoir pas manger forcément à sa faim. En fait, il y a des épreuves dans la vie de tous les jours qu'on mène et du coup sur lesquelles on peut se porter. Et après, par contre, la sensibilité et la manière dont on va pouvoir être résilient face à toutes ces épreuves, elle est vraiment disparate d'une personne à une autre. Et donc répondre à cette question de façon précise, c'est compliqué. Mais par contre, de dire qu'il faut outiller, soutenir du coup, les jeunes sur la santé mentale pendant cette période qui est cruciale, ça par contre, on peut le dire.
Et ces dernières années, le nombre de jeunes dans cette situation a eu tendance à plutôt augmenter. Je pense notamment à la période du Covid, avec le confinement et les cours en distanciel.
Oui, notamment par exemple sur les pensées suicidaires. On voit qu'entre des chiffres avant le Covid et après le Covid, ça a été révélateur et du coup, il y a de plus en plus de personnes qui ont ce genre de pensée.
Alors du coup, les services s'adressent aux jeunes. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge particulière ou pas?
Alors sur le service d'écoute, on est vraiment sur la population étudiante. C'est pour respecter un peu ce côté pareil pour les étudiants. Et après, sur nos autres projets, en fait, il y a plusieurs choses. On anime chaque année des campagnes de communication. Par exemple, on a ouvert un site internet qui s'appelle le Kit de vie, avec des jeux numériques qui permettent de renforcer ses compétences et ses connaissances en santé mentale. L'année dernière, on a fait un projet qui s'appelait Tête la première, sur le rapport entre la santé mentale et l'activité physique. Et donc en fait, on ouvre pas mal la parole aux jeunes en général. On fait aussi des actions directement pour les jeunes avec des stands et des actions de prévention spécifiquement à leur destination. Et le but de la fresque que de la santé mentale que je parle, c'est qu'on aille encore plus vers les jeunes, ce qui est un peu nouveau pour nous parce que à la base l'association elle a été créée spécifiquement pour les étudiants. Et en fait, au vu du besoin énorme qu'il y a en France sur la population des jeunes en général, on commence petit à petit à trouver des outils, à inventer, à innover pour pouvoir être présent pour cette population en général.
Vous avez parlé d'outils au pluriel. Est-ce qu'au-delà de cette fresque, vous avez d'autres projets ?
Une grosse actu, c'est sur cette fameuse fresque de la santé mentale qui prend beaucoup de notre temps. Mais oui, on a pour projet de pouvoir être présent, par exemple, dans le Nord et le Pas-de-Calais. On a créé des formations spécifiquement sur les étudiants de BTS et de classes préparatoires, qui sont deux populations étudiantes qui sont souvent dans des lycées et du coup qui sont un peu plus extérieurs au monde étudiant et à tous les services de santé qui sont proposés en général. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir aller directement vers eux. On a fait une expérimentation sur Tourcoing du coup en début d'année grâce aux cités éducatives et là on aimerait pouvoir en faire un peu plus sur du coup la métropole, le Nord et le Pas-de-Calais.
Et quels résultats observez-vous ?
Sur le service d'écoute, déjà on est de plus en plus reconnu dans le sens où on est de plus en plus appelé. Donc ça veut pas forcément dire que les jeunes voient de plus en plus mal. Par contre, ça veut dire que les jeunes voient de plus en plus Nightline comme un outil de bien-être, de prévention, pour pouvoir parler de soi et vider son sac. Donc ça, c'est déjà un aspect qui nous fait dire qu'on est de plus en plus efficace sur la proposition, quoi.
S'il y a des jeunes en détresse mentale qui nous écoutent, est-ce que vous auriez quelques conseils justement à leur donner ?
Le premier, c'est d'en parler, de se renseigner. Et pour ce faire, nous, on a créé un annuaire qui s'appelle soutien.étudiant et qui référence sur l'Académie de Lille tous les psychologues gratuits et sans avance de frais pour les étudiants. Donc je pense qu'un des premiers volets, c'est aussi d'aller vers un professionnel de santé. C'est pas toujours facile, mais pourtant, ça sauve, ça me permet un rétablissement. Et je pense que c'est le plus grand conseil que je peux donner.
C'était Lucas Legrand, délégué territorial de l'antenne Nightline Lille-Nord-Pas-de-Calais. Si vous êtes un étudiant en situation de détresse psychologique, vous pouvez les appeler entre 20h30 et 2h30 au 03 74 21 11 11. L'appel est gratuit. Au total, 8 antennes sont déployées en France, à savoir à Lyon, en Normandie, Pays de la Loire, Paris, Reims, Saclay et Toulouse. Un reportage réalisé par Annel Caden pour RPL Radio.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.